Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Le chemin des femmes, de Michel Perrault. Née en 1928, Michel Perrault est une des plus importantes historiennes féministes de sa génération. Son père, athée, considère sa fille comme un garçon et l'incite à faire des études longues. De son côté, sa grand-mère, pieuse, la fait scolariser dans un collège catholique. En 1946, le baccalauréat en poche, elle s'oriente vers l'histoire sociale. Elle est marquée notamment par l'historien d'influence marxiste Ernest Labrousse, qui lui conseille de travailler sur la condition ouvrière au XIXe siècle. Professeure agrégée en 1951, nommée au lycée de Caen, elle a pour amis Mona Ozouf et Nicole Le Douarin, avec qui elle partage un intérêt pour la question des relations hommes-femmes. Elle devient ensuite maîtresse de conférences à l'université Paris 7 Jussieu et soutient en 1971 sa thèse sur les ouvriers en grève de 1871 à 1890. Bonne connaisseuse des travaux des historiennes américaines, comme John Scott ou Nathalie Simone Davis, elle concourt à la création, à l'École des hautes études en sciences sociales, EHESS, d'un petit groupe qui réunit des historiennes et philosophes françaises. En 1973, elle lance à Jussieu le cours intitulé « Les femmes ont-elles une histoire ?» que leurs collègues masculins regardent avec une condescendance amusée. Colloques et séminaires vont cependant progressivement permettre d'entrouvrir l'institution académique à l'histoire des femmes, comme en témoigne le colloque de Toulouse en 1982, « Femmes, féminisme et recherche », suivi de la création de l'ATP, action thématique programmée au CNRS. Dans les années 1990, elle s'associe au médiéviste Georges Duby, pour diriger une monumentale et pionnière « Histoire des femmes » en 5 volumes, 1992-2002, avec la contribution d'historiennes telles Pauline Smith, Christiane Clapiche, Arlette Farge, Geneviève Fraisse, Françoise Thébault, ainsi que des Anglaises et des Américaines. De 1986 à 1991, elle participe à la suite de Michel Foucault et auprès de Robert Badinter à l'ouverture de notre champ pionnier, l'histoire des prisons et de l'univers carcéral. En 2014, elle a reçu le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes. Elle est chevalière de la Légion d'honneur en 2017. Professeure honoraire de l'Université Paris 7, Michel Perrault continue inlassablement à travailler, participer à des colloques et produire articles et interviews. Pendant longtemps, les femmes ont pensé qu'elles devaient transmettre à leurs filles des manières d'être, des pratiques, les gestes quotidiens, les savoir-faire, le linge, la cuisine, la façon de s'occuper des bébés, toute une accumulation de savoirs qu'elles considéraient comme leur héritage, qu'elles seules pouvaient partager après l'avoir reçu de leur mère et de leur grand-mère. Il y a traditionnellement, chez les femmes, une plus forte idée du temps, d'une chaîne féminine, de tout ce qui se transmet par la parole, par le savoir-faire et le geste quotidien. Elles ont considéré ces fonctions davantage comme des valeurs que comme des tâches. Il leur a donc été beaucoup plus difficile de s'en détacher. Silencieuses, les femmes, mais on entend qu'à elles, diront certains de nos contemporains, qui éprouvent jusqu'à l'angoisse l'impression de leur irrésistible ascension et de leur parole envahissante. Elles, 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 toujours elles, vorace, pépiante, mais plus seulement dans les salons de thé, débordante désormais du privé au public, de l'enseignement au prétoire, des couvents aux médias et même au Parlement. Certes, l'irruption d'une présence et d'une parole féminine en des lieux qui leur étaient jusque-là interdits ou peu familiers est une innovation du dernier demi-siècle, le XXe, qui change l'horizon sonore. Il subsiste pourtant bien des zones muettes et, en ce qui concerne le passé, un océan de silence, lié au partage inégal des traces, de la mémoire, et plus encore de l'histoire, ce récit qui, si longtemps, a oublié les femmes, comme si, vouées à l'obscurité de la reproduction, inénarrables, elles étaient hors du temps, du moins hors événement. La chambre a été un creuset de civilisation, à la fois productrice de normes, lieu de création et terrain d'expérience. Dans une longue généalogie qui va de la chambre du roi à celle du palace, de la cellule du moine à celle de la prison, de la salle commune à la chambre particulière, elle répond aux représentations qu'on se fait du corps et de ses besoins. Lieu d'observation pour les enquêteurs, elle est un moyen de surveillance et mode de régulation et de discipline pour ses ordonnateurs. Prêtres, moralistes, médecins, hygiénistes, psychologues l'ont investi, définissant sa disposition et ses horaires, son cubage d'air, son type d'occupation, les manières de dormir. Architectes et décorateurs ont fixé son emplacement, coloré ses murs, l'ont tapissé, orné, meublé de styles variables. Le lit, antre du sommeil, hôtel de l'amour, tabernacle de la génération, a suscité une attention particulière dans sa matérialité et ses pratiques, notamment le temps qu'on doit y passer. La chambre-boîte condense les soucis, voire les obsessions d'une société. L'ordre de la chambre reproduit l'ordre du monde dont elle est la particule élémentaire. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.